Nos pères mangeaient la manne du désert, dans les endroits torrides où soufflaient les tornades. Sauve-nous, ô Seigneur, de cette horrible terre. Sauve-nous, ô sauve-nous, de cette terre sèche et assoiffée. Les complaintes de Gurney Halleck, musée de Dar es Balat. Teg et Duncan, tous les deux lourdement armés, émergèrent du non-globe avec Lucille pour affronter la partie la plus froide de la nuit. Les étoiles étaient des pointes d'épingle au-dessus de leur tête. L'air était absolument calme avant qu'ils le troublent par leur présence. L'odeur dominante qui parvenait aux narines de Teg était celle de la neige cassante, dont les exhalaisons moites piquaient les narines et formaient quand ils respiraient de gros nuages de buée devant leur visage. Des larmes de froid naissaient au coin des yeux de Duncan. Il avait beaucoup pensé à Gurney pendant qu'il se préparait à quitter le non-globe. Ce bon vieux Gurney, avec sa joue balafrée par le fouet de vinancre d'un Harkonnen. C'est maintenant que Duncan aurait eu besoin de compagnons de confiance. Il ne se fiait guère à Lucille et Teg était vieux, bien trop vieux. Il voyait les yeux du Bachar luire de fatigue à la lumière des étoiles. Déplaçant le poids de l'antique laser de combat qu'il portait sur l'épaule gauche, Duncan enfouit ses mains dans ses poches à la recherche d'un peu de chaleur. Il avait oublié à quel point il pouvait faire froid sur cette planète. Lucille, pour sa part, ne semblait pas trop affectée. Elle devait encore faire appel à l'un des trucs du Bene Gesserit pour se réchauffer. En la regardant, il se rendait compte qu'il n'avait jamais vraiment fait confiance à aucune de ses sorcières, pas même à Dame Jessica. Il était trop facile de voir en elles des créatures traîtresses, incapables de faire preuve de la moindre loyauté en dehors de leur ordre. Et elles avaient beaucoup trop de sales tours dans leur sac. Lucille, il est vrai, semblait avoir renoncé à ses intentions séductrices. Elle savait qu'il ne plaisantait pas l'autre jour, mais il était bien évident qu'elle bouillait de colère. Qu'elle continue à bouillir. Teg était silencieux, toute son attention tournée vers l'extérieur. Il écoutait les bruits de la nuit. Avait-il eu raison de s'en remettre à l'unique plan qu'il avait préparé avec l'aide de Burt Mali? Il ne disposait d'aucune solution de rechange. Y avait-il à peine 8 jours qu'ils avaient mis tout au point? Il avait l'impression, malgré la hâte des derniers moments, que cela faisait beaucoup plus longtemps. Il se tourna vers Lucille et Duncan. Celui-ci portait sur l'épaule un vieux laser Harkonnen, le gros modèle de combat. Même les recharges étaient très lourdes. Lucille avait refusé de s'encombrer d'autre chose qu'un minuscule laser de poche qu'elle avait glissé dans son corsage. Il ne pouvait tirer qu'une seule giclée, un jouet d'assassin. Nous autres, au Bene Gesserit, nous sommes réputés pour aller au combat armés de nos seuls talents individuels, avait-elle expliqué. Cela nous diminue de vouloir procéder autrement. Restaient les deux poignards glissés dans des fourreaux le long de ses cuisses. Teg les avait bien vus. Et il les soupçonnait aussi d'être enduits de poison. Il soupesa l'arme qu'il tenait lui-même entre les mains, un modèle de combat bien plus moderne qu'il avait amené de la citadelle. Et sur l'épaule, à la bretelle, il avait aussi le frère jumeau de l'arme que portait Duncan. « Je dois faire confiance à Burt Mali, » se disait Teg. « C'est moi qui l'ai formé, je sais ce qu'il vaut. S'il dit qu'on peut se fier à ses nouveaux alliés, il doit avoir raison. » La joie avait éclaté sur le visage de Burt Mali quand il avait retrouvé son vieux Bachar sain et sauf. Mais il avait neigé depuis leur dernière rencontre, et la neige formait à présent autour d'eux une table rase où les moindres traces allaient s'inscrire. Ils n'avaient pas prévu cela dans leur plan. Y avait-il des traîtres à la régulation du temps? Teg frissonna. L'air était vraiment glacé, il avait une minceur stratosphérique et donnait libre accès à la lumière stellaire qui baignait la clairière autour d'eux. La lueur diaphane se réverbérait sur le tapis blanc du sol et la poussière scintillante qui couvrait les rochers. Les formes sombres des conifères et les branches nues des espèces à feuilles caduques étaient soulignées par un ourlet de givre. Tout le reste était plongé dans l'ombre noire. Lucille souffla sur ses doigts et se pencha vers Teg pour chuchoter. « Vous ne croyez pas qu'il devrait être là ?» Ce n'était pas ce qu'elle lui demandait en réalité. Sa vraie question était « Peut-on faire confiance à Burt Mali ?» Et elle l'avait déjà posée plusieurs fois, sous une forme ou une autre, depuis que Teg lui avait expliqué son plan, 8 jours auparavant. Tout ce qu'il put répondre fut
« Je joue ma vie là-dessus. »
« La nôtre aussi ?»
répliqua Lucille. Teg détestait comme elle l'incertitude où ils étaient plongés. Mais l'efficacité de n'importe quel plan reposait en fin de compte sur ceux qui étaient chargés de l'exécuter.
« C'est vous qui avez insisté pour que nous partions d'ici afin de gagner Rakis au plus vite. »
rappela-t-il à la révérende mère, tout en espérant qu'elle remarquerait son sourire destiné à atténuer l'agressivité du propos. Lucille ne parut affectée ni dans un sens ni dans l'autre. Teg n'avait jamais vu une révérende mère afficher autant de nervosité. Que dirait-elle si elle savait quels étaient leurs nouveaux alliés? Bien sûr, il y avait aussi le fait qu'elle avait jusqu'ici partiellement échoué dans la mission que lui avait confiée Taratza. Elle devait en être ulcérée.
« Nous avons fait le serment de protéger le Gola, » dit-elle.
« Burt Smalley a fait le même serment. »
Teg regarda Duncan qui gardait le silence à côté d'eux. Rien dans son attitude n'indiquait qu'il prêtait attention à ce qu'il disait ou qu'il partageait la nervosité ambiante. Ses traits étaient figés en un masque d'impassibilité ancienne. Il écoutait la nuit. Et c'est ce qu'ils auraient dû être en train de faire tous les trois, se dit Teg. Il y avait dans l'expression du jeune Gola le reflet étrange d'une maturité sans âge.
Si j'ai jamais eu besoin de compagnons de confiance, c'est bien en ce moment, était en train de se dire Duncan.
Son imagination le ramenait une fois de plus à l'époque de ses racines pré-Gola sur Geddy Prime. C'était ce qu'on appelait alors une nuit arconène. Bien au chaud sous la protection de leur armure flottante sur suspenseur, les Harkonnen aimaient traquer leur gibier humain par des nuits pareilles. Un fuyard blessé pouvait facilement mourir de froid. Et les maudits Harkonnen s'en réjouissaient. Que leurs âmes soient à jamais damnées. Comme il fallait s'y attendre, Lucille, captant son attention, lui lança un regard qui voulait dire « Nous n'en avons pas encore fini, toi et moi. » Il leva le visage vers la lumière des étoiles pour qu'elle ne manque pas d'apercevoir son sourire narquois et provocateur. Lucille se raidit dans sa dignité. Il fit glisser le gros laser de son épaule pour l'examiner. Elle remarqua les ornements spiralés sur la crosse et le long du canon. L'arme était une antiquité, mais elle donnait tout de même une impression de terrible puissance. Duncan la fit reposer au creux de son bras gauche, la main droite sur la poignée, le doigt sur la détente, exactement de la même manière que Teg avec son arme plus moderne. Lucille tourna le dos à ses compagnons et explora de tous ses sens le versant de la colline, au-dessus et au-dessous d'eux. Au moment même où elle accomplissait ce mouvement, le bruit d'une violente déflagration déchira la nuit, suivi d'une avalanche d'explosions plus brèves. Il y eut une série de grondements distants sur leur droite, et le silence retomba. Une nouvelle explosion monta du pied de la colline, puis le silence, puis un fracas venu d'en haut, de tous les côtés à la fois maintenant. À la première déflagration, tous les trois avaient plongé derrière le rempart des rochers qui faisait face à la caverne du non-globe. Les bruits qui emplissaient la nuit étaient difficiles à isoler les uns des autres. Ils formaient un vacarme puissant, à composantes en partie mécaniques, auxquelles s'ajoutaient des appels, des plaintes et des sifflements sinistres. De temps à autre, une sourde explosion souterraine faisait vibrer le sol. Teg connaissait ces bruits. Il y avait une bataille qui se livrait non loin. Il percevait le sifflement des brûleurs de combat et, là-haut dans le ciel, le vrombissement fulgurant des lasers lourds. Quelque chose éclata au-dessus de leur tête dans une pluie d'étincelles rouges et bleues, puis une deuxième et une troisième fois. Le sol n'arrêtait plus de trembler. Teg eut mal air. Il y avait une odeur d'acide effervescent, avec une légère composante aliacée. Des non-vaisseaux. Plusieurs non-vaisseaux. Ils étaient en train de se poser dans la vallée au pied de l'antique non-globe.
« À l'intérieur, vite » ordonna-t-il.
Au moment même où il parlait, il comprit qu'il était trop tard. Des ombres s'avançaient vers eux de tous les côtés. Il souleva le canon de son gros laser et le pointa vers la vallée, dans la direction où il entendait le plus de bruit et voyait le plus de mouvement. Des cris montaient à présent vers eux, étouffés par la distance. Des brilleurs dansaient parmi les cimes des arbres, projetant des ombres fantasmagoriques. Il venait d'être lâché par ceux qui gravissaient la pente de la colline. Porté par la brise glaciale, Les sphères lumineuses permettaient de voir par intermittence les silhouettes sombres qui se détachaient sur le blanc de la neige.
« Des danseurs visages !»
grogna Teg en reconnaissant leur allure. Les sphères flottantes allaient dépasser la cime des arbres d'ici quelques secondes, et elles seraient sur leur position en moins d'une minute.
« Nous sommes trahis !» dit Lucille.
Un cri sonore leur parvint de la colline au-dessus d'eux.
« Bachar !»
accompagné de nombreux bruits de voix.
« Burt Mali ?»
Teg leva les yeux dans cette direction, puis les baissa vers les danseurs visages qui poursuivaient leur progression. Pas le temps d'être difficile. Il se pencha pour dire à Lucille
« Burt Mali est là-haut. Courez avec Duncan. »
« Mais si c'était… »«
C'est votre seule chance. »
« Imbécile !»
accusa-t-elle au moment même où elle se tournait pour obéir. Le « oui » de Teg ne fit rien pour soulager ses craintes. Voilà ce qui arrivait quand on s'en remettait uniquement au plan des autres. Duncan nourrissait de toute autre pensée. Il comprenait les intentions de Teg, se sacrifier pour leur donner le temps de fuir. Il était hésitant, les yeux tournés vers l'ennemi qui grimpait la colline. Voyant ses hésitations, Teg aboya.
« C'est un ordre de combat. Je suis ton commandant. »
Lucille se tourna vers Teg, sidérée. Jamais elle n'avait entendu un homme utiliser des inflexions aussi proches de la voix. Duncan ne voyait qu'une chose. C'était le visage de son vieux duc qui lui ordonnait d'obéir. C'était trop pour lui. Il agrippa le bras de Lucille, mais avant de l'entraîner vers le sommet de la colline, il se retourna pour dire à Teg
« Nous vous couvrirons dès que nous serons à l'abri. »
Teg ne répondit pas. Il prit position derrière un rocher recouvert de givre, tandis que Lucille et Duncan s'éloignaient en rampant. C'était le moment de vendre chèrement sa peau. Mais il faudrait qu'il y ait quelque chose d'autre en prime.
L'inattendu.
L'ultime signature d'un vieux bachar. Les attaquants se rapprochaient rapidement. Leurs exclamations excitées étaient pleinement distinctes. Réglant la puissance de son laser au maximum, Teg pressa la détente. Un arc bleuté foudroyant balaya le flanc de la colline en contrebas. Les arbres sur son passage s'embrasèrent et s'abattirent. Des cris retentirent. L'arme ne fonctionnerait pas longtemps à ce régime, mais tant qu'elle agissait, le carnage qu'elle faisait produisait l'effet désiré. Dans le silence abrupt qui suivit cette première décharge, Teg quitta sa position pour se mettre à couvert derrière un nouveau rocher sur sa gauche. Seuls quelques brayeurs flottants avaient survécu au premier déchaînement de violence, avec ses arbres arrachés et ses corps disloqués. De nouveaux hurlements s'élevèrent en réponse à sa deuxième contre-attaque. Il rampa parmi les rochers jusqu'à l'autre côté de la caverne, qui donnait accès au non-globe. De là, il arrosa de son laser l'autre versant de la colline. De nouveaux cris se firent entendre, de nouvelles flammes surgirent, des arbres calcinés s'abattirent. Pas une fois l'ennemi n'avait répondu à son tir. « Ils veulent nous prendre vivants. » L'Etlé Laxu était prêt à sacrifier le nombre de danseurs qu'il faudrait pour lui faire vider son laser. Il changea de place la bretelle de l'antique canon Harkonnen sur son épaule pour qu'il soit prêt à entrer en action d'un seul mouvement. Puis il éjecta la charge presque vide de son laser moderne, mit en place une nouvelle charge et posa l'arme sur un rocher. Il ne croyait pas qu'il aurait l'occasion de recharger sa deuxième arme. Les autres penseraient qu'il était à court de munitions. Mais il avait encore à sa ceinture les deux pistolets Harkonnen, comme ultime recours. Il devait être efficace à tir rapproché. Les maîtres Kleilaxu, ceux qui portaient la responsabilité du carnage, qu'il s'approche un peu. Prudemment, il reprit le laser posé sur la roche et grimpa vers le sommet de la colline en prenant d'abord sur la gauche, puis sur la droite. Deux fois, il s'arrêta pour arroser le versant en contrebas d'une brève giclée, comme s'il voulait économiser ses recharges. Il était inutile de chercher à dissimuler ses mouvements. Il devait avoir un détecteur de vie qui le suivait en permanence, et de toute manière, il y avait les traces qu'il laissait dans la neige. L'inattendu. Avait-il une chance de les attirer suffisamment près? Bien plus haut que la caverne d'accès du non-globe, il trouva un creux parmi les rochers, en partie comblé par la neige. Il se laissa glisser au cœur de cette position, notant l'admirable champ qu'elle offrait. Ses arrières étaient protégées par des pitons rocheux. Sur trois côtés, le versant était dégagé. Il passa prudemment la tête pour essayer d'apercevoir quelque chose derrière les roches qui le dominaient. Rien d'autre que le silence. Cet appel venait-il vraiment des hommes de Burtsmallie? Mais même si c'était le cas, il n'était pas certain que Lucille et Duncan pourraient les rejoindre dans ces circonstances. Tout dépendait en fait de Burtsmallie. A-t-il autant de ressources que je l'ai toujours pensé? Le temps manquait pour examiner les différentes possibilités ou changer un seul élément de la situation. Le combat était engagé. Il n'avait qu'un seul rôle à jouer. Il prit une profonde inspiration et scruta la colline qui s'étendait en contrebas. Ils s'étaient déployés et avaient repris leur avance. Mais ils n'avaient plus de brilleurs cette fois-ci et ils étaient silencieux. Plus de cris d'encouragement. Teg appuya son laser moderne sur le rocher devant lui et balaya tout le versant de gauche à droite d'un arc lumineux prolongé qu'il laissa s'éteindre tout seul pour bien montrer qu'il avait épuisé sa charge. Défaisant la bretelle du laser Harkonnen qu'il portait à l'épaule, il le mit en position et attendit en silence. Il devait croire qu'il avait battu en retraite vers le sommet de la colline. Tapis derrière les rochers, il espérait qu'il y avait suffisamment de mouvement là-haut pour tromper les détecteurs de vie. Il entendait encore les voix de ceux qui gravissaient la pente calcinée. Il compta silencieusement dans sa tête, évaluant la distance, sachant par expérience combien de temps il fallait pour que l'ennemi se trouve à bonne portée de tir. Et il guettait surtout un autre bruit, qu'il avait maintes fois entendu sur les champs de bataille où il avait précédemment affronté les Tleilaxu. C'était les jappements brefs des commandements lancés par des voix suraiguës. Il les entendait. Les maîtres se tenaient bien plus en arrière qu'il ne l'avait prévu. Les lâches. Il régla le vieux laser sur la puissance maxi et se dressa soudain hors de son creux protecteur entre les rochers. À la lumière des arbres et des buissons en flammes, il vit les premiers danseurs qui avançaient prudemment en un large arc de cercle. Les voix aiguës des maîtres étaient bien en retrait de cette ligne, hors de portée de la lumière orange et vacillante. Soulevant le nez du laser, Teg visa une ligne située en arrière de la première vague d'attaque. Il lâcha deux longues giclées qui balayèrent le terrain dans chaque sens. L'énergie destructrice contenue dans cette arme antique le surprit tout d'abord. De toute évidence, il s'agissait du produit d'une superbe technologie. Mais il n'avait eu aucun moyen de l'essayer à l'intérieur du non-globe. Cette fois-ci, les hurlements aigus qui retentirent ressemblaient à des piaillements de panique. Teg abaissa le canon de l'arme et nettoya la première ligne de danseurs visage. Ils reçurent le rayon de plein fouet, ce qui leur indiquait qu'ils ne possédaient pas qu'une seule arme. L'arc livide repassa plusieurs fois sur eux, en leur donnant largement le temps de le voir s'achever par un faible crachotement d'étincelles. C'était le moment. Il s'était laissé berner une fois, il se montrerait un peu plus prudent. S'il voulait rejoindre Lucille et Duncan, il avait maintenant une toute petite chance. Cette seule pensée en tête, il quitta le creux des rochers et courut vers les pitons dans l'intention de les contourner pour continuer d'escalader la colline. Il n'avait pas fait 5 pas qu'un mur de chaleur sembla se matérialiser devant lui. Son esprit conscient eut à peine le temps d'analyser ce qui lui arrivait. L'impact irrésistible d'une décharge d'étourdisseur en plein dans la figure et dans la poitrine. Cela venait du haut de la colline, là où il avait envoyé Lucille et Duncan. Un irréparable chagrin enveloppa le Bachar, tandis qu'il sombrait progressivement dans un abîme de ténèbres. D'autres étaient capables de produire l'inattendu.